comme d'habitude, ouais. Avant les fêtes, on fait un cours sur le thème autour de la fête. On va appeler ça un hors-série.
Ouais, hors-série ça.
Mais Bezrat Hashem, on fera un rapport aussi avec le Tania.
Non.
Donc évidemment, le thème... Là, il y a quelqu'un. Le thème va être... Bonsoir. Le thème va être Hanouka. Et on va dédier ce cours Bezrat Hashem pour la Hatzlacha de la famille Akos. Donc c'est Monsieur Akos et sa famille qui vont faire la pizza pour ce soir, pour encourager le cours de Tania. Alors je leur souhaite que leur vie soit pleine d'huile, avec beaucoup de bracha.
Voilà. L'huile d'olive.
L'huile d'olive. Ok. On va directement attaquer avec la Guémara. Et avec la Guémara, c'est juste une entrée en matière, pour nous permettre d'essayer de définir ensemble quel était le miracle de Hanouka. Alors je préfère vous prévenir d'emblée. Le début du cours va être un peu technique, mais je pense que c'est une question qu'on doit tous se poser. Et il est grand temps qu'on se la pose. Et après, progressivement, dans la suite du cours, on va développer selon la chassidoute. Mais pour comprendre le message de la chassidoute, il faut d'abord comprendre comment les décisionnaires ont expliqué. D'accord ? J'en dis pas plus pour l'instant. Alors, la question que tout le monde se pose, j'en ai parlé aussi ce matin, pourquoi Hanouka est une fête qui dure 8 jours ? D'habitude, dans toutes les fêtes qu'on a, il y a une victoire. La guerre, elle peut durer 10 ans, c'est pas mes affaires. Mais la victoire, elle dure combien de temps? La victoire, elle arrive quand? Elle arrive à un point donné. Il y a un moment, un point, d'accord, dans lequel on dit, la victoire s'est passée à ce moment-là. Et c'est là qu'on célèbre la victoire. Ça dure un jour. Pourim dure combien de jours? Un jour. Pourquoi? Parce que la victoire s'est passée le 14 ou le 15 Adar. Qu'on soit à Suse ou qu'on soit, qu'on soit à Suse ou qu'on soit en dehors de Suse. D'accord? C'est tout, c'est comme ça. Donc, ça dure un jour. Combien de temps dure Hanouka? 8 jours. Pourquoi 8 jours? Vous connaissez certainement la réponse, l'histoire du miracle. Oui. Sauf que vous allez voir que ce miracle n'est pas si simple. Vous savez, des fois, des choses, on les entend depuis qu'on est petit, et on les a tellement entendues que, du coup, c'est quelque chose d'évident pour nous. Mais vous allez voir que je vais juste essayer de pousser un petit peu, de poussiérer un petit peu, et toujours on va se dire, mais c'est vrai, c'est quoi le miracle ici? Alors, j'y arrive. On y va. La Gemara nous raconte la chose suivante, c'est dans le traité Shabbat, Gemara Shabbat, page 21, référence numéro 1. La Gemara pose la question, Maï Hanouka, qu'est-ce que Hanouka? Bonne question. Qu'est-ce que Hanouka? Réponse de la Gemara, Shekshenichnes ou Yevanim Laechal, lorsque les Grecs sont rentrés dans le temple, Tim ou Kol Hashman Yushabaechal, ils ont rendu impures toutes les huiles du temple. Vous savez que dans le temple, on allumait la menorah avec de l'huile d'olive, vous avez parlé d'huile d'olive. Et les Grecs ont impurifié toutes les huiles d'olive. Ukshgavra malchut bet Hashmonaï venitzrum, et lorsque le royaume des Hashmonéens a obtenu la victoire et qu'ils ont gagné, ils étaient une poignée d'hommes, ils ont réussi à gagner. Ils ont gagné les Grecs. Batku, donc ils ont voulu évidemment rallumer la menorah. Le problème, c'est que lorsqu'ils ont voulu rallumer la menorah, ils ont cherché de l'huile. Il faut de l'huile pour allumer la menorah. Ils ont cherché, vous connaissez la suite, et ils ont trouvé, alors au début ils n'ont rien trouvé, et à la fin ils ont trouvé une fiole d'huile. Comment ça se passait à l'époque? À l'époque, la façon comment ça se passait, c'est qu'il y avait une fiole d'huile par soir. Et cette fiole, avec ça, on remplissait les godets de la menorah. Ça remplissait bien, c'était plusieurs litres. C'est pas quand on dit une fiole, c'est pas une... Ah oui, c'était plusieurs litres. Parce qu'avec ça, ça devait brûler toute la nuit une grosse flamme. Donc pour que sept, parce que la menorah du Beth Amigdash a sept branches, pour que cette flamme brûle, à bon débit, pour toute une nuit, une nuit d'hiver, litres, ouais. D'accord? Il faut des litres et des litres. Donc c'était quand même une quantité assez conséquente. En tout cas, on a cherché et on a trouvé qu'une fiole d'huile. Le problème, c'est qu'on avait besoin de pour 8 jours. Pourquoi on a besoin pour 8 jours? Plusieurs raisons. Je vais vous donner 2 raisons simples, d'accord? C'est que tout simplement, et la réponse du Meiri qui dit que l'endroit où on préparait l'huile s'appelait Tekoa. Et Tekoa était à 4 jours de Jérusalem. Donc 4 jours aller. 4 jours retour, ça fait 8 jours. Donc c'est pour ça qu'il fallait attendre 8 jours. Et une autre réponse aussi, qui dit que, étant donné que les Juifs revenaient du combat, ils étaient impurs de l'impureté du mort. Et combien de jours il fallait pour se purifier de l'impureté du mort? 7 jours. Donc 7 jours, le temps de se purifier, plus le 8e jour, on prépare. Ouais, ça fait 8 jours. En tout cas, techniquement, ils étaient bloqués, il ne restait qu'une fiole d'huile. Ok, ça vous connaissez. Le miracle, d'accord? Donc velo yabo el alikemirat na sebones, il y a eu un miracle veidliku menushmona yamim, et on a allumé avec ça pendant 8 jours. On est d'accord? Tout le monde est d'accord? Aucune objection? Le miracle de Hanouka?
Les Grecs savaient que
Comment un purifier, quoi.
Bien sûr. C'est pas compliqué. Il suffisait de décacheter et de la toucher. Eux, ils étaient impurs. C'est terminé, elle est impure.
Ils
le savaient.
Ils savaient que c'est.
Ils le savaient et ils l'ont fait volontairement, comme on a expliqué ce matin en cours. Ils n'ont pas cassé. Ils les ont impurifiés. Eh bien.
Mais pourquoi? Pour même pas changer.
Pour?
Pourquoi pas méchancer,
pas? Parce que pour montrer que la pureté et l'impureté ne veut rien dire.
Ah, d'accord.
Par mépris. Par mépris. Ok, ça c'est le miracle.
Le miracle ne consiste pas à ce que le fait qu'ils aient gagné la guerre.
C'est possible.
C'est une très bonne question.
C'est possible.
Et Monsieur Benita pose une très. Je répète la question, Monsieur Benita, pour ceux qui l'ont pas écouté, d'accord. Ne soyez pas distrait par la pizza parce que la question est bonne, aussi bonne que la pizza. Monsieur Benita pose une question. Il dit mais est-ce que le miracle principal c'est pas le miracle de la victoire militaire? Je vous réponds non. C'est faux. Et la vérité c'est qu'il faut régler ce problème une fois pour toutes. Parce qu'aujourd'hui, quand on va en Israël, par exemple, vous savez, dans tous les centres commerciaux, on vous célèbre Hanouka, etc. En Israël, c'est une fête nationale, Hanouka en Israël. Mais j'ai un problème avec ça. Le problème, j'étais en Israël pendant plusieurs années. Et Monsieur Yazdi, il est là, d'accord, au Hachem, un Israélien aussi. Mais j'ai un problème, c'est qu'en Israël, et pas qu'en Israël d'ailleurs, dans le monde qui n'est pas religieux, on vous présente Hanouka comme la victoire des Maccabim. On te présente Yehuda Maccabi, on s'imagine que c'est Rambo, tu vois. Il y a un gros musclé qui s'appelle Rambo, qui est venu, qui a tout cassé.
Oui,
tu vois, comme ça que les gens s'imaginent. C'est-à-dire, les gens, ils imaginent, c'est quoi Hanouka? Il y avait un petit qui était petit mais costaud, et il leur a tous cassé la figure. C'est pas ça, Hanouka. Ça, c'est un détail, la victoire militaire. C'est un tout petit détail du Hanouka, la victoire militaire. Le réel enjeu de Hanouka, c'est que Hanouka, on avait un combat idéologique avec les Grecs. C'est ça le vrai enjeu. Et quand on a gagné ce combat idéologique. Et c'est pour ça qu'on va célébrer Hanouka avec la lumière. La lumière, ça représente la spiritualité. Et c'est pour ça qu'on fait 8 jours, pas un jour. Si le miracle était que la victoire militaire, les fêtes dans lesquelles on célèbre une victoire militaire,
un jour,
Hazak. D'accord? Pourquoi 8 jours ici? Parce que le miracle principal, c'est le miracle de la fiole d'huile. D'ailleurs, il suffit de voir le terme de la Gemara. La Gemara pose la question, elle dit, qu'est-ce que Hanouka? La Gemara, elle sait très bien que Hanouka, il y a une victoire militaire. Et vous remarquerez, il n'y a pas tout le texte ici. Vous prenez la référence Gemara Shabbat, page 21b, il n'y a pas une seule mention de la victoire militaire. Il dit, qu'est-ce que Hanouka? Après, tu as 15 lignes, on te raconte, ils sont rentrés, la fiole d'huile, etc. Mais oui, mais où est la guerre? Personne ne parle de la guerre. Il y a un miracle avec la guerre, c'est quand même un miracle. On était peu nombreux, on a gagné contre ceux qui étaient plus nombreux. Mais c'est pas ça, Hanouka. Hanouka, c'est surtout le miracle, d'accord, qu'on a gagné, la victoire, qu'on a gagné, que la Torah a gagné, contre l'hellénisation. D'accord, mais ça, je reviendrai plus tard.
Pourtant, à Purim, on fait le contraire.
Non, Hanouka, Purim, c'est autre chose. Purim, il voulait nous tuer. Il ne voulait pas nous assimiler.
Ah, oui.
Hanouka, il ne voulait pas nous tuer. Il dit, restez en vie, moi, je ne veux pas vous tuer. Il voulait nous assimiler. Jusqu'aujourd'hui, on paye encore Hanouka, vous savez. Jusqu'aujourd'hui, on a assimilé, c'est la culture grecque. Aujourd'hui, n'importe quelle personne qui va avancer dans la science, n'importe quelle personne qui avance un peu dans la culture, à un moment ou un autre, il est obligé d'apprendre le grec. Vous êtes d'accord avec moi? Tous les grands, bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Tout, même en France, je te parle ici. Tu prends en France tous les grands savants, les grands scientifiques sont obligés d'apprendre le grec. Parce que si tu n'apprends pas le grec, tu n'as pas accès au savoir. C'est comme si, les Avdil, c'est comme si quelqu'un il veut être rabbin sans apprendre l'hébreu. Les Avdil.
Ouais, ouais.
Le grec, c'est la base.
Ouais.
Toute la base de la science moderne, c'est le grec. Donc vous voyez, c'est quelque chose de moderne. L'assimilation, c'est le grec. Ça, on est encore en plein dedans. C'est pas fini encore. On est encore en plein dedans. Je referme la parenthèse. Reprenons le miracle, parce que j'ai envie qu'on reste focalisé, parce qu'on a quand même pas mal de détails à développer. Quel est le miracle? Le miracle était qu'il y avait une fiole d'huile qui devait brûler qu'un jour, elle a brûlé pendant 8 jours. J'ai d'abord une première question à vous poser, avant d'entrer dans les détails techniques de ce miracle. Est-ce que, dans le temple, lorsque ça s'est passé, donc à la fin du second temple, est-ce que c'était la première fois qu'on a eu un miracle comme ça, qu'il y a une bougie qui a duré plus de temps que prévu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous dit quelque chose dans le Chumash, dans une paracha qu'on a étudiée il n'y a pas longtemps, où il y avait un miracle d'une bougie qui brûlait plus longtemps que prévu? D'accord? Non, je vous pose la question à vous déjà. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La paracha il n'y a pas longtemps, on a vu ça, une paracha il n'y a pas longtemps. Hein? Bougie de qui? Vas-y, dis-nous.
Les bougies de Sarah.
Alors vas-y, raconte-nous, c'est quoi les bougies de Sarah? Sarah, elle allumait ses bougies quand?
Shabbat?
Non, pas Shabbat.
Shabbat.
Juste avant Shabbat. Maintenant, nous, nos bougies, on les allume vendredi. Vendredi après-midi, avant Shabbat. Bon, elles tiennent 4-5 heures. Voilà. D'accord? Après, c'est fini.
Tandis que
Sarah, ses bougies duraient jusqu'à miraculeusement, évidemment, elle mettait une quantité qui durait pour quelques heures, mais durait jusqu'au Shabbat d'après, jusqu'au vendredi d'après. Donc c'est un miracle.
Ah oui.
Est-ce que du miracle de Sarah, on a fait un Hanouka? Alors, pourquoi ici, c'est quoi le drame qu'on fait de Hanouka?
Des bougies qui restent
la même semaine? Non, c'est, Sarah, c'est trop facile. Si tu trouves une bougie qui dure une semaine, c'est facile. Oui, mais c'est pas ça ce qu'a fait Sarah. Sarah, elle te prenait une bougie qui dure 4 heures et elle durait une semaine.
Alors, en vérité, il y a deux miracles.
Oui.
Deux miracles. La lumière, les bougies,
oui.
Plus la bataille.
Oui, d'accord, j'ai compris. Mais je comprends la question. Ma question, c'est, on est en train de faire tout un plat ici du miracle de la victoire, du miracle de la fiole d'huile. Qu'il y a une flamme qui devait durer un jour, qui a brûlé 8 jours. C'est pas la première fois que ça arrivait dans l'histoire. C'est pas la première fois. On a déjà eu un miracle comme ça, avec Sarah par exemple, avec Rivka, la matriarche. Un miracle, mais avec des bougies, c'est quelque chose de classique. Et on n'en a pas fait un drame. Donc il faudrait qu'on s'arrête un peu pour comprendre quel est ce miracle. Surtout, il y a une autre question qu'on a se poser. Comment vous comprenez le miracle? Je vais vous donner un exemple concret. Il n'y a pas une bouteille qui est presque vide. Bon, dommage. Voilà. JB. Voilà, Kézak. Voilà. Ok. Alors, on va prendre un exemple.
Il n'y a pas voulu.
Ok.
Ça brûle bien.
Imaginez. Ça brûle bien. Bonsoir. On va prendre cette bouteille. Ok. Imaginons que dans cette bouteille, il y a. Voilà.
Je vais encore un petit
peu. Voilà, c'est un peu plus vite. Très bien, allez, elle est là. Voilà, c'est le but du jeu.
Perdez pas la main.
Voilà, comme ça, elle est presque vide.
Voilà. Il me faut un huitième, c'est tout.
Un huitième.
Voilà, c'est bon. Voilà. Ok, on est d'accord? Ah, mais là, j'ai plus un huitième, là. Ok, voilà, c'est bon, là. Là, on est vraiment au ras des pâquerettes. Ok, on est d'accord?
Ouais.
Vous suivez? Monsieur Benita, bon, on prend pas. Hein?
Mes velotes.
Voilà. Allez. Rabotin, on prend le fil, s'il vous plaît. Ok. Donc j'ai ici devant moi une bouteille. D'accord. Bon, là, un peu, il reste pas grand-chose. Mais voilà, j'ai ici une bouteille. Ça veut dire qu'on aurait dû avoir tout ça dans la fiole et on n'a que ça. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir 8 fioles, j'en ai qu'une seule. Ok. Comment ça s'est passé concrètement? Donc on arrive, imaginons que ce soir, on est le premier soir de aujourd'hui on a gagné la guerre, Baruch HaShem Mazel Tov. On fait la fête, on cherche les fioles d'huile, on devait en trouver 8, on n'en trouve qu'une seule. Très bien. On fait quoi ce soir? On met quoi dans la menorah? Attendez. Qu'est-ce qu'on met? On met tout ce qu'on a?
Ah, oui,
réfléchissez, allez jusqu'au bout. Attendez. Ah.
Oui.
Non, j'ai une fiole qui dure que pour un jour. Maintenant, je sais qu'il me faut 8 jours.
Ah, mais 18
par 8. Réfléchissez. Qu'est-ce que je fais?
Il y en a peu.
Hein?
Il y en a peu.
Donc vous dites, alors j'ai entendu une réponse ici, que tu dis, je divise par 8, et chaque soir je mets un peu, on fait ce qu'on peut.
Ouais,
d'accord, ok, très bien.
Moi je mets tout, en faisant comme ça.
Joseph il dit, moi je mets tout, on verra après. Et fait une prière, pas mal. Non mais il a raison, attendez.
Rabbi Joseph.
Bon, je vais aller plus loin que ça. Non mais je vais aller plus loin que ça. Pour vous aider à répondre à la question, pour vous comprenez que la question n'est pas simple. Le miracle, il a duré 7 jours ou 8 jours?
8.
Attendez.
7 jours.
Ah bah oui, parce que j'avais déjà 1, je devais arriver à 8.
Pourquoi 8 alors?
Donc si j'avais 1 et je devais arriver à 8, il manque 7. Donc j'ai pas 8 jours de miracle. J'ai 7 jours de miracle.
Il y a 8 jours de miracle.
Ah bah non.
Mais non.
Déjà le premier jour, t'as trouvé une fiole.
Il me fallait 8 pizzas, j'en ai qu'une seule. Dieu a fait un miracle, j'en ai eu 8. Il y a 7 pizzas qui sont miraculeuses, j'en ai une qui était déjà là. On est d'accord?
Exactement.
On est d'accord avec les pizzas, c'est bon? Donc pour en faire... Bah, c'est très simple. Hein? Non, j'ai un exemple pour montrer. Imagine-toi, tu dois livrer 8 pizzas, t'en as que 8. Tu arrives et tac, il y en a 8.
T'en as livré 4.
Il y a un miracle sur combien de pizzas? 7 ou 8?
Tu coupes une en deux, t'as
pas... Alors pourquoi Hanouka dure 8 jours, alors? Pourquoi Hanouka... Vous avez déjà posé cette question? Pourquoi Hanouka dure 8 jours?
La première partie de l'huile est liée au... Aux 7 autres. Donc ça dure une...
Oui, alors voilà. Donc en fait, pour répondre à la question, la vraie question qu'on doit se poser, c'est comment ils s'y sont pris? Comment ils ont fait? Donc imaginez, voilà, aujourd'hui on a gagné la guerre, 25 qui se lèvent, Mazal Tov, on a gagné la guerre. On a trouvé la menorah, parce que la menorah on allumait le soir. Enfin, pas le soir, avant la tombée de nuit. Donc on arrive, et on voit qu'on a qu'une fiole, et qu'on a 8 jours à tirer avec. Et tous les soirs on doit rallumer. N'oubliez pas ça. Alors les gens ils pensent bêtement qu'elle a duré 8 jours, mais elle n'a pas duré 8 jours, parce que tous les soirs on devait la rallumer.
Ouais.
Donc si on l'a rallumée, ça veut dire qu'elle s'est éteinte.
Ça veut dire qu'elle
Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a pas brûlé 8 jours. Alors, comment ça a marché, alors? Ça veut dire qu'elle s'allumait, elle s'éteignait, après on l'a rallumée. Comment ça a marché?
La journée aussi?
Non. La journée, c'était pas allumée.
Que la nuit.
Alors, comment on a fait, alors? Comment on a fait?
J'ai mis en deux. Hein? J'ai 12 heures les enquêtes.
Alors, là, non, la réponse la plus simple, la vérité, c'est la réponse de, qu'a donné David. C'est dès le départ, du coup, on divise, non, la réponse, pardon, de Serge. Elle a dit, on l'a divisé en 8. D'accord? Et bon. On se débrouille. On fait ce qu'on peut. Alors vous allez voir qu'on va voir qu'il y a deux façons de répondre à cette question. Et c'est pour ça que dans la feuille que vous avez devant vous, il y a un tableau. Enfin, c'est une sorte de tableau. Vous avez la colonne de droite, la colonne de gauche. Ouais. Il y a deux façons d'expliquer le miracle. Mais le rabbi va démontrer que sur les deux façons, il y a un problème. Et on va trouver après une troisième façon, évidemment. Donc, on va commencer par la colonne de droite. La colonne de droite, c'est, on va expliquer que le miracle était qualitatif. Et la colonne de gauche, on va expliquer que le miracle était quantitatif. Tout le monde est dérangé par cette question. La question que je viens de vous poser, qu'a priori Hanouka aurait dû durer 7 jours, puisque concrètement, on avait déjà de quoi, on avait déjà 1, donc pour arriver à 8, il faut rajouter que 7. Et aussi, comment s'y est pris? Comment on a fait tous les soirs? Qu'est-ce qu'on a mis? Sur cette question, il y a des centaines de réponses. Il y a un livre que j'ai sur Internet qui s'appelle Ner Lemea, la bougie pour 100. C'est un livre qui a été édité par le Rav Yerachmiel Zeltzer, qui a vécu il y a quelques dizaines d'années, qui a recensé 100 réponses sur la question. 100 réponses. Après, il y a un autre livre qui a été édité quelques dizaines d'années plus tard, qui s'appelle Nes Leshushanim, et qui recense 500 réponses à cette question. Il y a des questions qui ont un mazal comme ça, tout le monde s'arrête sur cette question. La question que je vous pose, c'est une question que tout le monde s'arrête dessus. Il n'y a pas un livre qui se respecte qui s'est arrêté sur cette question. Comment ici on prie pour Hanouka? Pourquoi Hanouka dure 8 jours et pas 7 jours? Vous imaginez 500 réponses? Je ne vais pas vous faire 500 réponses, je vous préserve un petit peu. On va faire 2 réponses. C'est déjà pas mal. Donc commençons par la colonne, vous savez quoi, on va commencer par la colonne de gauche. Parce que c'est la plus simple. Donc, on a c'est le Beit Yosef. Beit Yosef qui dit la chose suivante. Et là, vous allez voir, Serge, il va se... On va expliquer. Les achar shenatnu shema benerot amenorah. J'espère que vous êtes bien réveillés, mais avec la pizza, ça vous a bien réveillé, si Dieu veut. Donc, regarde, on va laisser le texte parler. Après que la menorah ait été remplie comme d'habitude, Nishar apar malé kevatrila. La fiole se remplissait à chaque fois comme au début. C'est-à-dire qu'il y a, là, le rapport du Beit Yosef, il va exactement comme ce que Joseph a dit. D'ailleurs, Beit Yosef, Yosef, c'est Joseph. D'accord? Vous savez ce qu'il répond le Beit Yosef? Il dit, c'est très simple. Il dit, regardez, c'est pas compliqué. Vous savez ce qu'on a fait? Pas compliqué. Je prends ton verre. Il dit, on a versé. D'accord? On a rempli la fiole, on a rempli le godet. Le godet s'est consumé, il a brûlé normalement, le lendemain on revient, hop, il s'est rempli.
Tout seul,
évidemment tout seul. D'accord? On a rallumé, bon, il est rempli, on rallume, d'accord? Il se vide. On rallume, et ça s'est passé 8 fois comme ça. On s'explique le Beit Yosef.
Ça c'est une explication.
Ça veut dire que le miracle est quantitatif. Ça veut dire que j'avais une quantité, on va dire par exemple, il me fallait 1 litre, ben, au final je me suis retrouvé avec 8 litres.
Ouais, mais à chaque fois il faut 2. Le chamage plus.
Non, bon, d'accord, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ok? Alors, il y a 7.
Okay. Non, mais pour ça, il faut.
Donc, inami, ou bien, mais c'est toujours dans le même ordre d'idée. Shebeleil rishon etu kol hashem benerov et etu kol laila, ou ba voker matsu anerot pleim shemen vechen bechol laila ve laila. Donc, il y a deux façons de comprendre la réponse. Ou bien, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le godet carrément, dans lequel on mettait l'huile, qu'on allumait. Il se consumait, et tu revenais le matin, fup, il se remplissait. Ou bien on peut dire que le miracle s'est passé dans la fiole. Non, pas petit bout, On a tout vidé, tu le mets bien au chaud, tu reviens le lendemain, hop, il est reparti. Tu le remets, hop, il est reparti. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un miracle quantitatif. C'est un miracle quantitatif. Ça veut dire que j'avais 1 litre, je me retrouve avec 8 litres.
Comment
ça? C'est un miracle.
C'est vide.
C'est un miracle.
Regardez un peu, bon, on peut...
Ça veut dire quoi? Ça n'existe pas. C'est un miracle. Un miracle, c'est un miracle.
Bien sûr, ça existe, miracle.
Tu sais, Baba Salé, t'as dit qu'il bracha. Quand il venait dans la maison, qui faisait ce que j'appellerais un fabringen, d'accord? Excusez-moi, les Marocains.
Mais bon, c'est un fabringen.
Non. Qu'est-ce qu'il faisait? D'accord. Qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait une bouteille d'arak. Il prenait la bouteille d'arak, il mettait un chiffon autour, comme ça. Et il versait tout le monde. Il versait des milliers de personnes, comme ça. Comme une bouteille. Versé. Une fois, Baba Salé, il était en route avec son chamash, le Rav Edrei. Et son chemin, je lui dis, écoutez, ils étaient en route pour aller à Jérusalem. Ils avaient Jérusalem, Kadosh Baruch Hu, nous en donne que des bonnes nouvelles. Et ils étaient en route pour aller à Jérusalem. Et à un moment, son chemin, le Rav Edrei, lui dit, écoutez, il venait du nord d'Israël, je pars pas de loin, quoi. Et son chemin, je lui dis, écoutez, Rav, il faut qu'on s'arrête pour prendre de l'essence. Il y en a presque plus d'essence. Ah oui, tu roules, roule, roule.
Ils
ont roulé. Maintenant, lui, il était rouge. Oui. Il a roulé. Je sais pas comment. Il a fait des centaines de kilomètres, comme il a traversé tout Israël en étant rouge. Tu peux comprendre ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un miracle quantitatif, ça. Tu comprends? Après, une fois qu'il est arrivé à Jérusalem, à destination, il dit, maintenant, tu peux aller prendre l'essence. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple, Rabotai, de miracle. Ça, c'est un exemple de miracle quantitatif. C'est un miracle quantitatif. Ça veut dire que tu as bien un litre, tu te retrouves avec une litre. Seulement, Dieu, il te le fait pas comme ça devant toi. Il a dit, David, je sais pas qui a dit, il a dit, caché. Dieu, il te fait pas devant toi. Toi, tu allumes, c'est plein, après, tu pars, la nuit, parce que la nuit, on n'est pas là, ça se vide, et Dieu, une fois que c'est vidé, il te remplit. Il te remplit le godet, ou il te remplit la bouteille. Mais c'est un miracle quantitatif. Ça veut dire que, il faut un litre pour brûler la nuit, et Dieu, il t'a envoyé 8 fois un litre. Chouac, pac, 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 ça se remplit. D'accord. Ça, c'est une première réponse. Première piste. Deuxième piste, là, on passe à la colonne de droite, qui va dire que le miracle n'est pas quantitatif, c'est un miracle qualitatif. Ça veut dire quoi qualitatif? Écoutez bien, on va lire ensemble Beth Yosef. Chilkou Shemen, la colonne de droite. Chilkou Shemen, je sais pas, il va donner la réponse de Serge. D'accord? Enfin, plutôt Serge qui a donné la réponse de Beth Yosef. D'accord? Il dit comme ça. Il dit, c'est très simple. Il dit, dès le départ, l'huile qu'on avait dans la bouteille, on l'a divisée en 8. Ok? Et, ou bechol laïla, aïnotim menorah chelek echad. Et chaque nuit, on mettait dans la menorah une part, un huitième donc. Veaya de l'ek à Daboker, et il est allumé jusqu'au matin. Donc là, c'est plus un miracle quantitatif. C'est pas qu'on te dit, t'avais un huitième et tu te retrouves avec un. Non! C'est que l'huile, il y a une nouvelle qualité d'huile. Dieu a changé la densité de cette huile. Voilà. Qu'avec un huitième d'huile, t'es parti pour, il a concentré. Ah ouais. D'accord? C'est possible. Ça veut dire que Dieu a changé la nature de cette huile qui était dans ce godet, que cette huile, au lieu elle se consumait 8 fois moins vite. Très longue durée.
Donc, hein? Ça arrive.
Non, mais là, le problème, c'est que l'huile n'était pas comme ça.
Non, mais autrement dit,
Dieu a modifié.
Est dans l'huile.
Donc le miracle n'est plus dans la quantité. C'est pas que la quantité a changé. La quantité n'a pas changé. Elle est restée la même.
Ouais. D'accord.
C'est la qualité qui a changé. Ça veut dire que Dieu a fait en sorte que la qualité de cette huile, elle est différente. Ok? Donc ça, c'est une première approche. Il y a une autre approche qui dit, c'est le prix Hadash. Qui dit, mais c'est une petite nuance, mais qui dit c'est à peu près la même chose. Il dit, moi je pense que le premier soir on a tout versé, et chaque soir il n'y a qu'un huitième qui se consumait, le matin on éteignait, et après le soir on rallumait. Mais c'est la même chose. La seule différence c'est est-ce qu'on versait un huitième, ou est-ce qu'il n'y a qu'un huitième qui se consumait. Mais le miracle reste le même. Ça veut dire qu'il n'y a pas une miracle quantitatif. C'est pas qu'on se retrouvait avec des tonneaux et des tonneaux. Non, la quantité restait la même. Ce qui a changé ici, c'est là, c'est la qualité.
D'accord.
Vous êtes d'accord? C'est des belles réponses. Vas-y. C'est pas mal, c'est sympa. Sauf que, comme on va expliquer, on a un problème avec ces deux réponses. On va prouver que les deux réponses, j'ai pas envie de dire, ne tiennent pas à la route parce que je n'ai pas respect pour les commentaires qui l'ont dit, mais les réponses, a priori, ne marchent pas. Les deux réponses. Dire que c'est un miracle quantitatif et dire que c'est un miracle qualitatif, ça ne marche pas. Et je vais expliquer pourquoi. Hein?
C'est les deux dans les deux cas.
Non, mais non, regardez. Il y a un cahier des charges très clair. On va redonner l'exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, on a gagné la guerre. On a trouvé une fiole d'huile. Ce soir, donc avant la tombée de la nuit, on doit allumer la menorah. Je mets quoi dans les godets? Je mets un huitième? Je mets un entier? Qu'est-ce qui s'est passé techniquement? Ça s'est re-rempli? Ça s'est vidé? Hein? Oui, alors justement, vous vous dites que vous ne savez pas. Alors comment le miracle s'est passé? Parce que n'oubliez pas que tous les soirs, on devait rallumer pendant ces 8 jours.
C'était le jour, non?
Hein? Non, c'était le jour en fin de journée, juste avant la tombée de la nuit.
En gros, ils ont allumé, ça s'est jamais éteint.
Non, c'est pas bon ça. Parce qu'il y a une mitzvah au Beth Amikdash d'allumer la menorah tous les jours.
Donc
il faut l'allumer. Donc s'il faut l'éteindre, bien sûr, t'as l'allumé de l'allumer tous les soirs. T'es obligé de l'allumer. T'as mis tous les jours. Même Shabbat. Même Shabbat. Tous les jours. Au temple, on allumait la menorah tous les jours, même Shabbat. Même Shabbat, même Kippour. Tous les jours, avant la tombée de la nuit, on allume. Avec le feu, oui, monsieur, au temple, monsieur. Au temple, vous êtes. Shabbat, Kippour, monsieur. Tamid, 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 Afilou, Shabbat, tout le temps. On peut allumer une cigarette avec le mélange. Oui, allez-y.
On peut envisager.
C'était au temple.
Une huile qui se consume. C'est-à-dire qu'on met la totalité de notre fiole, on allume et on revient et l'huile est toujours au même niveau.
C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Le problème. Vous, j'entends votre question, sauf que vous allez voir, la question que je vais poser sur la quantité va montrer que votre réponse n'est pas bonne non plus.
D'accord.
Enfin, votre réponse, c'est ce que vous proposez.
Ma question.
Alors, on va passer directement à la référence. Donc, on est à la référence numéro 3. Ok. On va en prendre maintenant la colonne de gauche. Revenons à l'explication que le miracle était quantitatif. Donc, c'est quoi quantitatif? Rappelons-nous. Ça veut dire que j'avais un litre d'huile et je me retrouve avec 8 litres d'huile. Tic, 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 ça monte, ça monte, ça monte.
De l'huile changée.
Donc ça veut dire que l'huile qui a été rajoutée n'est pas une huile d'olive.
Si, pourquoi?
Ben non. Parce que l'huile d'olive, c'est une huile qui est issue d'une olive. Les 7 litres qui ont été rajoutés ne sont pas issus d'une olive, ils sont issus d'un miracle. Il n'y a pas eu un olivier ici.
D'accord. Alors de quel fruit?
Alors attendez, ben, il vient de nulle part, il vient d'un miracle. Or, il y a un problème. Pourquoi? Parce que dans la paracha Tetzavé, colonne de gauche, référence numéro 3, il est écrit « Ve'ata Tetzavé ben Israël, Dieu parle à Moïse. Il dit « Toi, tu vas ordonner aux enfants d'Israël, Ve'ikru et Lecha, et ils prendront pour toi Shemen Zait. » Le texte est clair, sans équivoque. Shemen, de l'huile, Zait, d'olive, Zar, pur, d'accord, Katit, concassé. Donc, une huile d'olive pure, concassée. Lama or, pour le luminaire, les Ha'alot, Nertamid, pour afin d'alimenter les lampes en permanence. Le texte est très clair. C'est-à-dire, on te dit que l'huile que tu dois allumer est une huile qui doit être une huile d'olive. Or, si tu dis que Dieu a fait un miracle, qu'il y a une nouvelle huile qui est venue ici, j'avais un litre et je me retrouve avec 8 litres, ça veut dire que les 7 litres qui ont été rajoutés ne viennent pas d'un olivier. Il n'y a pas d'olivier ici. Donc, c'est pas cachère.
On peut peut-être mélanger un peu d'impur.
Non, t'as pas le droit. La Torah, elle dit Shemen Zaïd. Elle te dit en plus Zar, pur. Ouais. Pur, ça veut dire, on te dit, il n'y a pas une goutte de cette huile qui ne doit pas venir d'un olivier. Ça n'existe pas. Donc le miracle ne marche pas, il sert à rien ton miracle. C'est très gentil Dieu de faire un miracle. Mais si tu dis que le miracle c'est juste que Dieu a fait un miracle quantitatif, le miracle ne sert à rien, puisqu'on n'a pas le droit d'allumer. Imaginons, je vais donner la question en théorie. Imaginez par exemple qu'on est bloqué, on n'a pas d'huile. Je répète la question, deux secondes. Imaginez qu'on est bloqué maintenant, Dieu amène le Beth Amikdash, on est bloqué, on n'a pas d'huile. Et Dieu fait un miracle, abracadabra, pac, il y a de l'huile. D'accord?
Mais c'est plus de l'huile d'olive.
C'est pas de l'huile d'olive. Alors, c'est pas cachère pour la menorah. Si la Torah avait dit Shemen, de l'huile. J'aurais dit de l'huile. Deux secondes. J'aurais de l'huile, c'est de l'huile. Qu'elle vienne par un miracle, qu'elle vienne par un ouragan, qu'elle vienne par une olive, qu'elle vienne par une tournesol, c'est pas mes affaires, c'est de l'huile. Mais là, la Torah a précisé, elle t'a dit, c'est de l'huile d'olive pure concassée. C'est-à-dire que la Torah t'a même précisé le mode d'emploi. Elle te dit, tu dois prendre une olive, c'est toi qui dois le prendre. Tu n'as même pas acheté au marché. Vous savez qu'on devait le faire spécifiquement pour ça. Tu devais aller au marché, chez l'agriculteur, prendre des olives, les écraser, et que l'huile sorte de l'olive, et avec ça, tu peux allumer. Ça, le miracle ne fait pas ça. Le miracle t'amène de l'huile, c'est bien gentil, mais il n'y a pas d'olive ici. Donc le miracle quantitatif ne marche pas.
Si c'est pas concassé, c'est pas,
même la manière, surtout.
C'est pas de l'huile d'olive, pure, concassée, c'est pas concassé. Il n'y a pas concassé ici. Donc le miracle quantitatif, c'est pas bon. J'avais un litre d'huile, j'en ai 7 qui ne sont pas d'huile d'olive. Ça vient pas d'olive. Donc c'est pas bon.
Même qualitatif, c'est de l'huile divine. Enfin, Dieu, s'il veut faire de l'olive.
Oui, mais j'ai compris. Mais
s'il veut faire du tournesol,
on
du tournesol.
On a appris il y a pas longtemps. Hein. On a appris. Je veux reprendre la question. On a appris il y a pas longtemps dans une haftara, dans la haftara de la parasha Vayera, l'histoire de Elisha. Et une femme qui est venue voir, la femme d'un prophète qui est venue voir Elisha, qui lui a dit mon mari est mort, et j'ai pas de quoi, etc. Et le créancier veut prendre mes deux enfants en tant qu'esclave. Il lui a dit qu'est-ce qui te reste à la maison, vous vous rappelez? Il lui a dit il me reste qu'un fond d'huile. Alors il lui a dit rentre chez toi à la maison, tu vas prendre ce fond d'huile, tu vas emprunter plein d'ustensiles, et tu vas remplir avec ce fond d'huile, tu vas tout remplir. D'accord? Alors comment définir cette huile qu'elle a eue? Le Radak, d'accord, Rabbi David Kimri, dans son commentaire sur cette histoire, il dit que d'après lui, l'huile que cette dame a reçue est exemptée du maaser. Vous savez que lorsqu'on avait une récolte, on avait l'obligation de prélever le maaser, 10% qui partait pour le Kohen, le Lévi, etc. Il y avait une obligation. Mais le rabbi David Kimri dit, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait avec cette huile? Est-ce qu'elle avait l'obligation de prélever les 10%?
Ah oui.
Puisque c'est une récolte. Il dit non, c'est pas une récolte. C'est pas une récolte. Elle a pas eu de récolte. C'est pas une récolte qu'elle a eue. C'est de l'huile miraculeuse. C'est de l'huile, miracle. Il y aurait pu y avoir des euros qui sont tombés, pardon. D'accord? Au lieu des euros, il y a de l'huile qui est tombée. Mais c'est pas de l'huile. C'est pas de l'huile, ça marche pas. D'accord? Donc, pardon. Ok. Donc, vous voyez que si on dit que la réponse, faut qu'on avance. Si on dit que la réponse est que le miracle était quantitatif, c'est problématique. Puisque si le miracle est quantitatif, il y a un problème. L'huile nouvelle qui a été donc ajoutée n'est pas de l'huile d'olive. Passons à la colonne de droite. Alors on va dire par deux secondes, parce qu'on se rend juste, on finit le raisonnement. Disons que maintenant que le miracle était un miracle qualitatif. Là c'est moins dérangeant. Là.
Bon. On est en train d'analyser.
Là c'est moins dérangeant.
Non,
si tu dis
compact,
pourquoi
là, parce que tout simplement, oui. Même si Dieu a changé la nature de cette huile, elle n'est plus huile d'olive. Or là il nous dit il faut qu'elle soit pure et concassée.
Oui, d'accord, moins.
Il ne faut pas qu'il la change.
Alors, c'est une très bonne question. Monsieur Benita, il pose une question. Je répète la question qu'on n'a pas entendue. Monsieur Benita, il pose une question. Il dit, il a raison. Il dit, Dieu a modifié la nature de l'huile. Une huile d'olive, d'accord, pour se consumer, par exemple, un litre d'huile d'olive se consomme en une nuit. Là, Dieu a modifié la nature de l'huile d'olive. Il a fait qu'un huitième se consomme en une nuit. Dans ce cas-là, c'est plus de l'huile d'olive. C'est une huile miraculeuse. Donc on reste avec le même problème. C'est votre question, c'est ça? C'est que, dans les faits, on reste avec le même problème. C'est que c'est plus de l'huile d'olive. C'est une huile que les caractéristiques ont été modifiées. Donc c'est plus de l'huile. Très bonne question. J'ai encore une autre question. Il y a une question plus forte que ça encore. Il y a un Rashi, dans la référence numéro 3 à la droite, qui dit la chose suivante. Il dit, Tain la midata, j'étais de leket merev ad boker, vesherou chamim chatilog. Tous les soirs. Dans la menorah, dans chaque godet, on devait mettre la quantité qu'il faut pour que ça peut brûler du soir jusqu'au matin. Et quelle est la quantité? Les sages l'ont évalué à 1 demi-log, est égal à 172,8 millilitres. Et qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara nous dit, et ça c'est un détail qui va nous déranger, la Gemara nous dit que lorsque la Torah a donné une quantité à mettre dans un ustensile, tant que tu n'as pas mis la quantité requise, l'ustensile n'est pas sain. Donc, si tu dis que le miracle était qualitatif, tu dis, ouais, c'est pas grave, elle a mis qu'un huitième. T'as mis qu'un huitième, mais il y a un problème. La Torah, t'as pas dit de mettre un huitième, la Torah t'a dit de mettre une quantité. Donc, tant que t'as pas mis la quantité, cet ustensile, tu peux le jeter à la poubelle.
Donc, tu mets le plein.
Il est pas cachère. Donc, on est obligé de faire le plein tous les jours. Mais si donc on est bloqué là. Donc, t'es obligé de faire le plein tous les jours. Parce que si tu fais pas le plein tous les jours, c'est pas cachère. Il faut faire le plein tous les jours. Mais si tu fais le plein, j'ai pas d'huile. Tu dis, c'est pas grave, on va te rajouter de l'huile. Oui, mais si tu rajoutes de l'huile, cette huile que tu vas rajouter, elle est pas cachère puisqu'il y a pas d'olive. Alors comment on fait?
Disons, aujourd'hui, c'est pas la quantité qui prime, c'est la durée.
Non, mais c'est que non, lui, alors on a fait un plein
David,
un soir.
David, reste sur le miracle de Hanouka, seconde.
On a après, fait un plein un soir, et lui, c'est pas consommé en fait. Lui, il a resté avec un pote qui a pas bougé.
Comment, non, c'est pas possible, tu as modifié la nature de lui? Comment ça marche? Alors, la clé de la réponse, donc là, vous voyez, on a un vrai problème, on est bloqué. Quand, j'ai pas envie de vous embêter. J'ai pas envie de vous embêter à 9h15 du soir.
Il y a le miracle aussi, c'est pas avec la vie à Elisha, quand il a envoyé la femme.
Oui, bon, mais là, pas le Hanouka. Okay, c'est un autre miracle, c'est avec la résurrection. Donc, je vais pas vous embrouiller. Juste ce que je veux vous montrer, c'est que ce miracle, a priori, n'est pas clair. On a grandi dessus, on nous a raconté ça, ça devait brûler un jour, ça durait 8 jours. Et quand on commence à mettre ça concrètement sur le papier, d'accord? Tu vois qu'il y a un problème, ça marche pas. C'était bloqué. Tu veux mettre qu'un huitième, c'est pas cachère, faut faire le plein à chaque fois. Tu veux dire que ça sera rempli, oui, mais c'est pas de l'huile d'olive, ça vient pas d'une olive, donc c'est pas cachère. Alors comment ils ont fait?
Alors, ou alors, dès le départ, c'est peut-être pas de l'huile d'olive.
C'est pas cachère.
Non, mais dès le départ, c'est peut-être de l'huile déjà qui était miraculeuse.
Mais c'est pas cachère pour la menorah.
Avec celle que Dieu a envoyée.
Mais c'est pas cachère pour la menorah. Dieu a donné un cahier des charges. Il a dit pour allumer la menorah, il faut remplir le godet à chaque fois.
J'ai compris.
Et il faut de l'huile qui est issue d'une olive que tu as concassée.
On l'appelle l'huile d'olive, mais c'est peut-être pas de l'huile d'olive.
Ah ouais, mais attendez.
Je sais pas, c'est rare. Ah
ouais. Ouais, Dieu t'a dit de pas allumer le feu, peut-être qu'allumer le feu, ça veut dire autre chose.
C'est exagère là.
Non. Dieu, quand il parle, il nous parle clairement dans le langage qu'on comprend.
Ah oui, il nous a
piégé. On est bien embêté là. On comprend pas le miracle, là. On est bien embêté. Elle dit, Hanouka, c'est demain soir. Faut que ce soit clair avant demain soir, là. C'est quoi cette histoire? C'est quoi Hanouka, là? C'est quoi, si on célèbre ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? On nous a carotté ou quoi? C'est quoi cette histoire? Alors, le rabbi va nous proposer une réponse extraordinaire. Et c'est une réponse qui est fine. D'accord? Mais Bezrat Hashem, je pense que vous, avec j'ai choisi de la faire au cours de Tania parce que je pense qu'au cours de Tania, on a le bagage qu'il faut pour comprendre ce genre de réponse. On va prendre le temps qu'il faut, de toute façon, pour la répondre. Mais c'est une réponse qui est extraordinaire parce que dans cette réponse, comment le rabbi a fait? Il a transformé la question en réponse.
Bravo.
Vous allez voir avec quel brio il va le faire. C'est-à-dire qu'on a une question, tu vois, on a une question, on est bloqué, et il va prendre la question même, et il va la transformer en réponse. C'est pas qu'il va dire, bon, t'as oublié ce détail, je rajoute un autre détail. Non. Tu sais, ta question était très bonne. Mais de ta question, je vais te la retourner, je vais t'en faire une réponse. Avec la question, la même question. Donc la question qui nous dérange est très claire. Comment c'est possible? Si ça se consume, ça se consume pas. Si ça se consume, il y a un problème, parce qu'il n'y a pas la quantité qu'il faut. Si ça se consume pas, alors dans ce cas-là, c'est une huile miraculeuse. Si une huile miraculeuse, c'est plus une huile d'olive. Comment ça fonctionne? Pour répondre à cette question, d'accord, on va ouvrir une petite parenthèse. La parenthèse qu'on va ouvrir, c'est avec une histoire qui, a priori, n'a rien à voir, mais qui, en vérité, est extrêmement liée à notre histoire à Hanouka. C'est l'histoire du buisson ardent. Vous vous rappelez l'histoire du buisson ardent? Alors, c'est quoi l'histoire? Moshe Rabbeinu, il était là. D'accord? Il y a une brebis. Il y a une brebis qui s'est égarée. Moshe Rabbeinu, il court derrière. Parce qu'il veut la ramener. Une brebis égarée, hein. Au sens propre pour l'instant. Après, ce sera au sens figuré. Une brebis égarée. Donc, Moshe Rabbeinu, il court derrière. Et il arrive. En fait, la brebis l'attire. Dans le traquenard. C'est pas un traquenard, c'est un bon traquenard, ça. La brebis l'attire vers le mont Sinaï. Et là, Moshe Rabbeinu, devant le mont Sinaï, il arrive. Et il voit une vision qui l'intrigue. Il voit, alors on va dire le pasouk, d'accord? Il voit donc il voit le buisson ardent. Alors c'est quoi ce buisson ardent? Un buisson, d'accord, qui était en train de brûler, d'accord, mais qui ne se consumait pas. Qu'est-ce que dit ici le Midrash Rabba, référence numéro 4? Vayar veine asene bo'er ba'esh, a'esh el mala, sorefet veina ochelet. Moïse vit le buisson se consumer. Le feu céleste brûle, mais ne consume pas. Là, il faut qu'on s'arrête dessus. Il faut expliquer ce qu'elle veut dire. Donc, il brûle, mais il ne se consume pas. Retenez bien, parce que ça, c'est la définition qui va nous sauver. Brûler, sans se consumer.
C'est ça, la réponse.
Attendez, mais il faut expliquer ce que ça veut dire. C'est parce que c'est facile à dire. Brûler, sans se consumer. On va expliquer. Deux secondes. Doucement. Laissez le temps à votre cerveau de digérer le brio de la réponse. Attendez, il faut laisser le temps arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le buisson, d'accord, il brûle, mais il ne se consume pas. Moshe Rabbeinu est intrigué. Et Moshe Rabbeinu n'est pas bête, très intelligent. Donc il y a quelque chose qui l'intrigue. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui l'intrigue. Donc il l'intrigue, il s'arrête, il regarde. Et là, Dieu lui dit, enlève tes chaussures de tes pieds. L'endroit dans lequel tu es en train de marcher est un lieu saint. D'accord? Etc. Et c'est là qu'on lui annonce plus tard que c'est à cet endroit même qu'il va recevoir la Torah plusieurs décennies plus tard. Eh bien, c'est l'histoire. On va s'arrêter un peu sur l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Quelque chose se brûle, mais se consume pas. Est-ce que c'est possible? Quelque chose brûle, mais ne se consomme pas. A priori, c'est impossible. Alors, d'abord, je vais expliquer. C'est de quoi brûler et ne pas se consumer. Là, imaginez, c'est comme par exemple, si je prends ici, par exemple, j'ai un carton. Le carton, il brûle. Bon. Si le carton, il brûle, c'est-à-dire forcément, cette matière se transforme. Oui, c'est obligatoire, c'est un combustible, donc c'est-à-dire que la matière se transforme. Hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ça veut dire que si j'ai du feu et je vois ce carton en train de brûler, il doit être en train de disparaître. C'est impossible que ce carton reste. Maintenant, si par exemple je vois le carton qui reste et je vois qu'il brûle pas, peut-être que le carton est ignifuge et qu'autour du carton il y avait de l'huile et que l'huile est le combustible et que le carton arrive à tenir, c'est possible, d'accord? Mais à un moment il y a un autre qui va brûler. C'est pas possible. Ça veut dire que si ça brûle, c'est que forcément
il y a un combustible.
Il y a quelque chose qui se consume. C'est la base même de la logique humaine. C'est pas possible que quelque chose brûle sans se consumer. C'est impossible. Ça veut dire que le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre ça. C'est pas possible. C'est pas qu'on te dit il y a un miracle, il y avait un feu, il s'est arrêté. Non, je te dis, ça brûle, mais ça se consume pas, la matière reste toujours là. C'est impossible. Parce que si ça brûle, ça veut dire qu'il y a une matière qui est en train de se détruire. Si la matière se détruit, ça veut dire qu'elle n'est plus là. Elle peut pas rester là, c'est pas possible. Ou elle est là ou elle est pas là. C'est binaire. Ou ça brûle ou ça brûle pas. Si ça brûle, ça se consume. Si ça se consume pas, ça brûle pas.
C'est ce qu'on nous dira.
Alors peut-être qu'on t'a fait du LED, on t'a fait une impression. Comment c'est possible? Eh ben, on te dit justement. On te dit que, alors, d'abord, on va expliquer. D'accord? Il faut qu'on explique le miracle. Je voudrais juste lire en bas l'écouter Sirot référence numéro 4, et après on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que ça brûle et ça se consume pas. Mais d'abord on va expliquer, monsieur Benita, il a bien vu, la réponse avec la menorah. Et ça va être la clé de la réponse. On n'a pas encore la réponse absolue, il faut développer. Référence numéro 4, l'écouter Sirot. Benes Hanouka Hayat Davar Veifuro. Regardez comment il transforme, le rabbi transforme, dans son ouvrage l'écouter Sirot, il transforme la question en réponse. Si tu dis en vérité ta question c'est la réponse. Dans le miracle de Hanouka, il y avait exactement deux aspects opposés. Mitzad echad, d'un côté, esh tivit, un feu naturel. Veor anerot, et une lumière de bougie. Abaa Mishemen, qui provient de l'huile. D'une huile, ça veut dire d'une huile d'olive, etc. Et donc, Mouchachat, les grommes, les kilayan Hashemen. Donc, obligatoirement, elle doit faire que l'huile se consume. Ou les Idar Gisai, d'un autre côté, l'Oner Sarme Hashemen Mouma, et en même temps, l'huile se consumait. Donc, ça brûlait. Si ça brûle, ça se consume. Donc, parce que c'est une huile d'olive, ça se consume. C'est pas possible. Et en même temps, elle se consumait pas. En d'autres termes, et on va développer tout de suite, Kilayon, Vei Kilayon Bevatachat, ça veut dire que c'est une consomption et une absence de consomption en même temps, simultanément. Là, M. Benita, il va me sauter dessus. M. Benita, d'accord. M. Benita, il va me sauter dessus, il va dire, M. Mendy, qu'est-ce que vous avez bu? C'est quoi ce délire?
Consomption.
Consomption, se consumer, c'est en français. D'accord, enfin, je cherchais le mot, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire-là? D'où on vient? Où on va? Où on est ici? Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose se consume sans se consumer? Simultanément, consomption et absence de consomption. Il se consume et il ne se consume pas en même temps. Comment c'est possible? On va tourner la page. Et on va comprendre un peu mieux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre ça. Consumer et ne pas se consumer. Et j'ai plusieurs exemples. On va essayer de s'arrêter un peu sur quelques miracles de l'histoire juive. Pour vous montrer comment le miracle de la consomption et absence de consomption est un miracle qui est hors du commun, qui dépasse tous les autres miracles de très loin. Prenons un exemple très simple. On va commencer par un exemple classique. Dieu fait un miracle, l'eau de la terre d'Égypte est transformée en sang. Vous connaissez ce miracle? Très bien. Combien de temps a duré le miracle?
Quelques minutes.
Non, réfléchissez.
Au moins 8 jours.
Non, réfléchissez. Ça n'a pas répondu à la bonne réponse.
Le temps de faire.
Il y a un miracle, Dieu a fait que toute l'eau de la terre d'Égypte est transformée en sang. Combien de temps a duré le miracle?
Une seconde.
Une fraction de seconde. Pendant une fraction de seconde, Dieu a modifié de l'eau en sang. Après, c'est fini. On est d'accord?
La durée.
Non, mais la durée. Après, c'est du sang. Eh ben, du sang, c'est du sang. Ah,
le temps de faire le truc, d'accord.
Non, c'est pas le temps. C'est du sang. C'est fini, c'est du sang. Dieu a fait, il y a de l'eau, pic, sang. Combien de temps a duré le miracle?
Un dixième.
Une fraction de seconde. Ouais. D'accord? Autre exemple, pour vous montrer la particularité. On va prendre un autre exemple. Prenez par exemple la traversée de la mer Rouge. Traversée de la mer Rouge. Combien de temps a duré le miracle?
Le temps de traverser.
Combien de temps a duré le miracle, traverser la mer Rouge? D'accord?
Il a duré longtemps. Là.
Alors, attendez, il a duré toute une nuit, c'est vrai. Mais c'est un miracle, finalement, qui a duré une fraction de seconde. Qu'est-ce que Dieu a fait comme miracle? Il a modifié la nature de l'eau. Jusqu'à maintenant, l'eau avait une nature qu'elle tombe. Dieu, il a fait une nature que l'eau tient comme une muraille. C'est-à-dire, ça, c'est des miracles qu'on peut s'imaginer dans notre esprit. Dans mon esprit, je peux m'imaginer qu'il y avait de l'eau, et c'est devenu du sang. Un magicien aurait pu le faire, bah, Dieu, il l'a fait. Ça veut dire. D'accord? Pareil, traverser la mer Rouge. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un, il est en train de rouler, d'accord, dans une montagne, et il a dérapé, Dieu préserve, et il n'y avait pas de barrière de protection, et il est tombé ravin 100 mètres. Et il est arrivé sain et sauf, indemne, pas une égratignure.
Miracle.
Combien de temps a duré le miracle? Attendez, réfléchissez. Combien de temps a duré, monsieur Benita, combien de temps a duré le miracle? Combien de temps dure le miracle?
Tant qu'il
tombe, pour l'instant tout va bien. Combien de temps dure le miracle? Une fraction de seconde. L'impact. Normalement, l'impact aurait dû le décomposer. Il n'a pas décomposé. Maintenant, après, une fois que ça en est sorti, il dit, je suis un miraculé. Ouais, Basaltov, miraculé, mais le miracle est terminé. Combien de temps dure le miracle? Une fraction de seconde. C'est-à-dire que tous les grands miracles, et je peux vous prendre des dizaines de miracles comme ça, tous les miracles qu'on connaît dans l'histoire juive, combien de temps dure le miracle? Une fraction de seconde. Tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans lequel il doit se passer quelque chose et ça ne se passe pas. C'est tout. Tac, tac. C'est tout. Après, c'est terminé. Le miracle est terminé. Là, on rentre dans une autre catégorie de miracles. Ah, c'est autre chose. C'est un miracle constant. D'où le titre du cours. Un miracle naturel et constant. C'est un miracle qui a été constant. C'est-à-dire que constamment, c'est ce qu'on consomme ou ce qu'on consomme. Ça, le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre ça. Le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre ça. Ça veut dire pour comprendre quelque chose comme ça. Je vais donner un exemple pour expliquer ce que ça veut dire. En fait, les commentaires disent la chose suivante. Ils disent, pour illustrer ce genre de miracle, ils disent, ce sont des miracles que le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre. Ils disent, par exemple, c'est un exemple qui est ramené ça par les penseurs juifs, notamment autour du Moré Nebuchim, autour du guide des égarés. Il dit, est-ce que, par exemple, on peut s'imaginer un jour qui est en même temps hier et demain?
Comment ça, hier et demain?
C'est pas possible. Je peux m'imaginer que hier devient demain, ou que demain devient hier, ça je peux imaginer, mais mon cerveau ne peut pas comprendre qu'il y a un jour qui est hier et demain en même temps.
Pas
possible, ça passe pas, c'est pas possible. D'accord? Ok. Et donc, en d'autres termes, Est-ce que, d'accord, est-ce que Akadosh Baruch Hu, est-ce que Akadosh Baruch Hu peut créer un miracle de seconde? Joseph, Joseph,
c'est important. Ce
non, certainement, mais il faut, non, mais il faut me laisser arriver jusqu'au bout. Je suis désolé, excusez-moi.
Mais après,
avec plaisir. Avec, non, je suis conscient. Il y a plusieurs qui veulent poser des questions. Il faut que j'arrive au bout du raisonnement parce que il ne faut pas qu'on se perde. Deux secondes. Rabotaille, un peu de discipline. Donc je reprends. Il faut bien comprendre qu'on parle ici d'un miracle qui sort complètement du commun. Ce n'est pas comme le miracle habituel qu'on a. Il était malade et il a guéri. Ça dure une seconde. Au lieu d'être malade, il a guéri, nigmar. Maintenant, il est en bonne santé, c'est terminé. Le miracle est terminé maintenant. D'accord? Oui, mais j'ai compris. Mais c'est-à-dire que le miracle, le switch s'est passé en une seconde. Il y a eu un switch, c'est terminé. C'était un quelqu'un qui était mourant. Eh ben, il est plus mourant. C'est fini. Maintenant, il vit. Il y a toujours un instant dans lequel tout bascule. Là, c'est autre chose. Deux secondes. Là, il y a autre chose. Là, on te parle d'un miracle qui est constant, qui s'arrête jamais. Ça veut dire que c'est une grande question que les penseurs juifs ont. Est-ce que Dieu, l'impossible peut lui être possible. Écoutez, c'est pas ne dites pas oui tout de suite parce que c'est une question qui est pas simple du tout.
Non, on peut pas répondre.
Exactement. Ça veut dire, par exemple, est-ce que l'impossible, c'est par exemple, c'est impossible que demain c'est aujourd'hui. Est-ce que pour Dieu, demain et aujourd'hui peuvent être en même temps?
Oui.
D'accord? Alors, c'est une grande question. Il y a des penseurs juifs qui pensent que c'est pas possible. Ils pensent qu'ils en peuvent pas, c'est pas possible. Il dit même un miracle, il faut qu'on puisse comprendre au moins le résultat. Mais Maïmonide, dans le guide des égarés, il dit non. Il dit, le vrai miracle, le grand miracle, c'est pas seulement quand tu comprends pas comment ça s'est fait. C'est quand tu arrives même pas à comprendre le résultat. Reprenons l'exemple de celui qui est tombé dans la falaise, Dieu préserve. Il est tombé dans la falaise. J'ai pas compris comment le miracle s'est passé. Mais j'ai compris ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un bonhomme qui devait mourir, qui devait se décomposer, qui s'est pas décomposé. J'arrive à comprendre. Mais il y a des choses que même quand tu m'expliques, tu me dis, mais voilà, ce qui s'est passé, c'est devant toi, tu ne peux pas comprendre. Et vous savez où on avait ça? On avait une illustration de ça dans le temple. Il y a un schéma ici que vous avez peut-être déjà vu, parce qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai mis dans un cours, d'accord? Dans la référence numéro 5, vous avez un schéma, et ce n'est pas une erreur de calcul.
Ah oui, je crois.
Voilà. Je vous en ai parlé, ça fait quelques semaines. J'ai remis le schéma, ça fait quelques semaines. Regardez le schéma de la référence numéro 5. C'est un petit schéma qui vous montre ce qui se passait dans le Saint des Saints. La largeur du Saint des Saints, vous avez le pictogramme ici, était de 20 coudées. Mmh. 20 coudées, une coudée c'est un demi-mètre. Bon, on va parler en coudées, c'est plus simple. Mmh. 20 coudées, vous me suivez? La largeur du Aaron, c'est 20 coudées. Au milieu, précisément au milieu.
Non.
Précisément au milieu du Saint des Saints, il y avait l'Arche Sainte. L'Arche Sainte mesurait 2,5 coudées. On est d'accord? Et elle était positionnée précisément au milieu. Donc je ne veux pas vous embêter, on va faire 20 moins 2,5. Ça fait combien?
17,5.
Divisé par 2, ça fait combien?
17,5.
17,5 divisé par 2, ça fait combien? 8,75. Ça veut dire que normalement, non mais attendez, c'est-à-dire que normalement, si tu mesures depuis l'extrémité droite du Aaron jusqu'au mur, tu dois trouver combien? 8,75. D'accord? Tu mesures depuis l'extrémité gauche, tu dois trouver 8,75. Tu mesures le Aaron, 2,5. En tout, ça fait 20. Le problème, c'est quoi? Regardez le pictogramme. Ne regardez pas, le pictogramme. Quand on prenait de bout à bout de l'Arche Sainte, d'accord? Enfin, pardon, du Saint des Saints, 20 coudées. On comptait de droite, d'accord? De la droite du Aaron au mur de droite, 10 coudées. Du mur de gauche, d'accord? À l'extrémité gauche du Aaron, 10 coudées. Et on compte le Aaron, 2,5. Je dis, c'est pas possible, je suis trompé alors. Parce que 10 plus 2,5, ça fait combien?
22,5.
Alors je vais recompter le mur, je me suis trompé. Tu recomptes 20. Et tu tournes en rond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Aaron prenait de la place sans prendre de la place. Mais le cerveau humain ne peut pas comprendre ça. Tu peux me faire un miracle, par exemple, qu'il n'y avait pas d'arche sainte, il y en a une. Ça tu peux faire ça. Il n'y en avait pas, il y en a une. Tu peux faire un miracle, par exemple, qu'avant il occupait 2 mètres, maintenant il occupe 1 millimètre. Tu peux faire ça.
C'est ça, il se consume.
Mais comment tu peux faire un miracle? Comment c'est possible de faire un miracle que devant mes yeux, je compte?
Je mesure.
Je veux dire, j'ai un mètre, je mesure. Tac! 20 coudées. Tu comptes 10, 22,5. Tu rencontres le mur? 20. Ça veut dire que le Aaron, il prend de la place. 2,5, il prend de la place. Sans prendre de la place. Tu deviens fou.
On pouvait toucher.
Tu pouvais toucher, oui. Enfin, nous, on n'a pas rentré. Mais ça veut dire, on dit que c'est quelque chose qui a été au-delà de la logique. C'est quelque chose qui te rend fou. Et ça, c'est un exemple. C'est ça, comme, exactement, exactement. Comme dit Monsieur Benita, il dit, c'est intéressant, parce que regardez. Et là, pourquoi le Aaron est un exemple parfait, l'Arche Sainte? Parce que l'Arche Sainte avait une taille précise que la Torah a donnée. La Torah dit, pour que l'Arche Sainte soit cachère, elle devait faire 2,5 coudées. Tu fais une arche sainte de 10 coudées, ça marche pas. 2,5. Donc, il y a une quantité précise. Donc, elle doit occuper une taille. Et si elle n'occupe pas cette taille, c'est pas cachère. Et d'un autre côté, elle n'occupait pas de place. Parce qu'on vient de prouver que la salle faisait 20, d'accord? C'était pile au milieu. Et quand tu comptes, tu voyais que ça prenait pas de place. Comme si ça n'existait pas. Ça veut dire que tu comptais 10 de chaque côté. Comme si que le Aaron n'était pas là. Alors qu'il devait être là, puisqu'on doit le compter. Il devait être là. Et il a une mesure précise que la Torah a donnée.
À moins, ça, à c'est moins un que le Aaron était suspendu.
Non, pas du tout. Et on le comptait, et tout était parfait. Et on tournait en rond. Mamache, tournait en rond. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple pour illustrer. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit que Dieu, il peut te faire une chose et son contraire en même temps. Le cerveau humain n'est pas conçu pour comprendre ça. Et bien, ça, c'est la clé de la réponse. Ça, c'est la clé de la réponse pour nous expliquer comment se passait le miracle de Hanouka. Avec ça, on répond à toutes les questions. Qu'est-ce qui nous dérangeait depuis tout à l'heure? Ce qui nous dérangeait depuis tout à l'heure, d'accord, David, minute, s'il te plaît. D'accord. Qu'est-ce qui nous dérangeait depuis tout à l'heure? D'accord. Hein? Bon, une minute, ça ne dérange pas. Qu'est-ce qui nous dérangeait depuis tout à l'heure? On va s'arrêter pour l'enseignement. Qu'est-ce qui nous dérangeait depuis tout à l'heure? Ce qui nous dérangeait depuis tout à l'heure, c'était comment c'est possible? Comment c'est possible? J'ai ici, si tu me dis que ça se remplit à chaque fois, donc ça se remplit, c'est nul qui est fait à de l'huile, donc ça marche pas. Alors si tu me dis que Dieu l'a modifié, comment ça marche? Alors, il y a une réponse très simple. Il te dit, la réponse, c'est la question. C'est que l'huile se consumait sans se consumer. Elle se consumait d'un côté, donc puisqu'elle se consumait, elle est cachère, et en même temps, elle ne se consumait pas. Mais tu me dis, comment c'est possible? Comment c'est possible? Et c'est ça la réponse que je te donne. Je te dis, pour Dieu, l'impossible
possible.
Est possible.
Ah oui,
donc puissant. Hein, sans... Exactement. Non. C'est pas bon là. Parce que si vous me dites qu'elle se consumait pas. Non mais attendez, parce que vous avez dit un mot qui est pas bon là. Vous avez dit la flamme existait sans consumer.
Oui.
C'est pas bon. Non, mais c'est pas bon ça. Parce que si ça consume pas, ça doit consumer. Parce qu'une huile d'olive doit se consumer, sinon c'est pas une huile d'olive naturelle.
Ah oui, ça.
Donc elle se consumait mamache, sans se consumer. Oui, c'est comme si comment... je dis, j'étais là sans être là, t'étais alors, là ou t'étais pas là.
Alors comment remplissaient les autres fioles?
Hein?
Comment remplissaient
toutes autres les fioles, c'est comme ça. Elles se consumaient sans se consumer. C'est un miracle. Non, c'est même pas au-delà du temps. Mais non, parce qu'encore une fois, si on dit que c'est au-delà du temps, dans ce cas-là, c'est miraculeux, et dans ce cas-là, c'est plus de l'huile qui vient d'une olive. Donc c'est pas bon. Là, la force d'un miracle comme ça, c'est que c'est un miracle qui est dans le temps. Comme le Aaron, tu mesures, tu as 2,5 devant tes yeux avec un centimètre. Tu le comptes, c'est devant toi. C'est pas qu'on dirait dans une nouvelle dimension dans laquelle il n'y a plus de mesures. Il y a des mesures. Je compte devant moi. Pardon. Et pourtant, continue à dormir. D'accord. Je compte devant moi. Et je dois pouvoir compter. Parce que si à un seul, ne serait-ce qu'un seul instant, je ne pouvais pas compter 2,5, le Aaron n'est pas caché. Je dois pouvoir compter. Et d'un autre côté, en même temps, d'un autre côté, Rabotai en même temps, même si je compte, concrètement, ça n'occupe pas de place. Comment c'est possible? C'est pas possible. Alors si c'est pas possible, comment c'est possible? C'est possible. Et bien si c'est pas possible, comment c'est pas possible?
Donc c'est impossible, c'est impossible. L'impossible.
C'est parce que t'as compris que t'as pas compris que t'as
tout compris.
Voilà. Non mais vous comprenez, ça veut dire que c'est extraordinaire, c'est énorme, c'est énorme comme réponse. Et là, pour moi, ce pictogramme résume, d'accord, résume la réponse. Mamache. Alors David veut nous servir.
Ça veut dire que dans la fiole à chaque fois, la quantité augmentait.
Non. Parce que si elle augmentait, c'est plus d'une qui vient d'une olive.
Comment je peux remplir 2, 3, 4 chaque jour?
Parce que c'est ce que je vous dis. Parce que le miracle, c'est qu'elle se consumait sans se consumer. Ça veut dire que moi, je voyais la nuit, je la voyais se consumer, et en même temps, elle se consumait pas. Donc quand je reviens le lendemain, elle est encore pleine.
C'est comme si tu mets des.
Alors qu'elle s'est consumée toute la nuit. Mais comment c'est possible? Si elle s'est consumée toute la nuit, comment il reste quelque chose? Alors elle s'est pas consumée alors. Non, elle s'est consumée. Ah mais si elle s'est consumée, qu'est-ce qu'elle fait là? Ah oui, mais en fait elle s'est pas consumée. Mais si elle s'est pas consumée, alors prenez comment ça se fait? Comment c'est consumé? Tu tournes en rond.
Quantité pour remplir une fiole.
Oui.
Alors le lendemain, comment je vais remplir deux?
Monsieur Benita, le premier soir, et ça c'est la réponse. Le premier soir, j'avais la quantité pour remplir une fiole. J'ai mis tout ce que j'avais.
Voilà.
Tout ce que j'avais. Je reviens le lendemain, qu'est-ce qui reste? C'est plein. Mais pas qu'elle s'est re-remplie. Elle s'est pas re-remplie.
Non, non, il y en a une seule.
Elle s'est jamais consumée. Tout en se consumant.
D'accord. D'accord. Mais c'est toujours une seule qui est allumée.
Oui, non, monsieur Benita, avec une fiole d'huile, on allumait sept bougies. Chaque fiole d'huile était conçue pour 7 bougies. Quantité. D'accord. Bon, alors évidemment.
Oui, monsieur, comme la lumière est en soi, oui. Ne consume pas le soir quand tu vas dormir. Non, le matin, tu la retrouves la même.
Ah, oui.
T'as compris.
Oh, non, non.
C'est un truc. Lumière.
Lumière.
Intérieur. Attention. Qu'est-ce qui manque, Benita? Elle est renouvelée constamment jusqu'à.
Merci, David.
Azak. Alors, est-ce que la tarte aux pommes, elle se consomme ou elle se consomme pas? Elle se consomme, en tout cas. je suis Bassari.
Ça veut dire il y a une chose et son contraire en même temps.
Exactement. En même temps. Simultanément. Et ça, c'est fou. Parce que ça, le cerveau humain ne peut pas comprendre. Je peux comprendre que cette bouteille, en un instant, se transforme en sang. Je dis, bon, avant, il y avait de l'eau. Il y a du sang. C'est Nigmar. C'est du sang maintenant. C'est bon. C'est fini. C'est du sang. Mais que tu me dises que cette bouteille, c'est de l'eau et du sang en même temps, je lui dis, Mabou, là, il est fou celui-là. C'est de l'eau ou du sang? Je lui dis, c'est de l'eau et en même temps, c'est du sang. C'est possible. Vous voyez, si j'avais voulu appliquer ça dans le miracle, du sang, de l'eau et du sang, on te dit, le Nil, il s'est transformé en eau et en sang en même temps. C'est de l'eau et du sang en même temps. Comment c'est possible? De l'eau ou du sang? Ou bien si je voulais appliquer le même ordre d'idée pour traverser la mer Rouge, j'aurais dit, écoute, la mer, elle s'est ouverte, mais elle s'est pas ouverte.
On a un exemple qui est flagrant, c'est le soleil.
C'est pas possible!
Le soleil, il est tout le temps en permanence en train de chauffer, mais il consomme pas.
Que Hachem est au-dessus des lois de la nature.
Bien sûr, bien sûr.
C'est un enseignement.
Oui, mais c'est
avoir une émouna, soleil, pour avoir un.
C'est plus fort que ça. C'est pas seulement qu'il est plus fort que les lois de la nature. C'est pour nous montrer qu'il est plus fort des lois de la nature dans les lois de la nature. Les deux en même temps.
Le soleil.
Oui.
Tout le temps. Il se consume pas.
Bien sûr qu'il se consume.
C'est
que. Bien sûr que tout se consume.
Ça fait des milliers, des millions, je sais pas combien d'années qu'il est là.
Tout se consume. Ça n'existe pas que je ne consume pas.
Oui, mais sa taille et sa forme est toujours là. Et sa brillance en permanence.
La lune probablement que la forme qu'a le soleil maintenant n'est pas la même qu'à la création du monde. Il y a quelque chose qui s'est consumé. Maintenant, c'est infime par rapport à ce qu'il peut donner, mais il y a quelque chose qui se consume. Chaque énergie, c'est forcément quelque chose qui est en train de se brûler. C'est la base même de l'énergie. Il y a une formule pour ça. J'oublie comment ça s'appelle. Il y a une formule pour ça. Vous savez, il y a une formule comment on calcule la consommation. Ça n'existe pas. L'énergie, d'accord? Exactement. L'énergie, il n'y a pas d'énergie. Oui, il n'a pas bougé parce que c'est infime. Non, pas au contraire, il prend Shalom. Il diminue pas dans ses côtés à brûler. Dieu le renouvelle constamment. Mais voilà, il se consume. Ok. Alors, Rabotai, je voudrais juste arriver maintenant, parce que tout ça c'est bien beau, mais il faut arriver à l'enseignement. Mahamar.
L'enseignement.
D'accord. Alors. Alors, on va essayer de tirer un enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? D'accord. Rabotai, on va essayer 10 minutes, mais de tirer un bel enseignement dans la vie de tous les jours. Rabotai. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours lorsqu'on dit qu'une personne vit miraculeusement? Comment ça fonctionne? En fait, on va expliquer que dans la vie d'un juif, on peut passer par ces trois choses-là. Écoutez bien.
Oui.
Il y a la conduite d'un juif naturel. Bon, naturel. Il y a une conduite miraculeuse. Miraculeuse. Il y a une conduite impossible. Trois niveaux. On va expliquer ce que ça veut dire. D'accord? On va lire un peu quelques lignes de la référence numéro 6. On va pas tout faire. On n'aura pas le temps sinon. On va en faire un petit peu. Référence numéro 6. Teva more alavoda alpitam vedat. Spirituellement, lorsqu'on parle de la nature, c'est quoi la nature? La nature, ça correspond à l'aspect rationnel du service de Dieu. Bon, et qui sert à Kadosh Baruch Hu, avec des règles naturelles. Il va dormir à l'heure, il se lève à l'heure, tout est calculé. D'accord? Amedouda, les filles, Amedidot, va Akbalot, Shelteva, Adam, Umtsiyoto. Servir Dieu naturellement, ça veut dire je sers Dieu selon, d'accord, mes limites. C'est-à-dire que mon service de Dieu sera inhérent à mes limites. Ça veut dire que si je peux donner tant, je ne peux pas donner ni plus ni moins. Je peux donner exactement ça. Ça, c'est une conduite naturelle. Et honnêtement, c'est comme ça qu'on est tous. C'est-à-dire que je fais des mitzvot par rapport à mes limites. Ça, c'est ce qu'on appelle une conduite naturelle. C'est pas mal déjà. Pas mal, les gens qui font même ça, ils font pas. Je dis que conduite naturelle. Je vais expliquer tout de suite. D'accord? Ça veut dire que on peut être religieux sans qu'il se passe de miracle dans notre vie. J'ai pas, peut-être que mon service de Dieu n'est pas un miracle. Il est naturel. Dans le sens que je sais que je peux donner tant, et je donne tant. C'est tout. Il n'y a pas de miracle ici. C'est le débat. Et c'est comme ça qu'on se comporte tous. Majorité. Après, il y a Ness. Il y a une conduite miraculeuse. C'est quoi? Moré, alavodat, adam, ikabalatol, sirot, nefesh, el mal, amita, vedat. Lorsqu'on parle de miracle dans le service de Dieu, c'est quoi un miracle? Un miracle dans mon service personnel. Le service naturel, c'est quand je me comporte naturellement. Le service miraculeux, c'est quoi? C'est lorsque j'ai une soumission à Kadosh Baruch Hu et que je fais preuve de don de moi qui transcende la raison. Ça veut dire que ça dépasse la logique. Quelqu'un qui fait quelque chose, il dit je sais même pas pourquoi je l'ai fait, je sais même pas comment je l'ai fait. C'est très rare, mais ça arrive des fois dans la vie. Vous allez essayer de vous remémorer des situations dans la vie, des choses que vous avez fait, que vous ne savez même pas comment vous avez réussi à les faire, d'accord? Et ni pourquoi vous êtes rentré dedans, et vous comprenez même pas comment c'est possible. Vous avez fait quelque chose qui dépassait complètement vos façons de voir les choses. Mibli les trachets, personota vapratim, sans calculer ma propre compréhension, ma propre volonté, mes propres sentiments, on a dépassé tout ça. Ça, c'est une deuxième façon. D'accord? C'est quoi la deuxième façon? C'est que j'ai le service de Dieu qui est naturel, et j'ai le service d'Akadosh Baruch Hu qui est miraculeux. D'accord? Qui est miraculeux. Très bien. Mais il y a un troisième niveau. C'est quoi le troisième niveau? Le troisième niveau, c'est lorsque tu arrives à être dans une situation dans laquelle tu as le miracle et la nature en même temps. Ça veut dire comme ça. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Pour comprendre l'ampleur de ce qu'il veut dire ici. Je vais vous donner un exemple concret. Un exemple très simple, très simple. Imaginez par exemple que je vous dis la nature. Comment on sert du naturellement? C'est très simple. On te l'écoute. Tu as 1000 euros. Tu dépenses 1000 euros. Tu peux pas dépenser 10 000, t'as que 1000. Ça, c'est la nature. Après, t'as le miracle. Le miracle, c'est un tzaddik, je comprends, il est dans une autre dimension. Ça veut dire qu'il est là, il mange des carreaux, il mange des trucs, etc., il vit, je sais pas comment. Il est dans le miracle. Il n'y a plus de nature. La nature n'existe plus. C'est-à-dire qu'il mange des carreaux, je ne sais pas ce qu'il mange là-bas, et il vit. Ça veut dire qu'il a complètement quitté la nature. Il y a des gens qui servent Dieu comme ça. Il y a des gens qui servent Dieu sans aucune nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, tu dis, mais comment tu fonctionnes? Comment ça marche? Je sais pas, je comprends pas. Ça marche pas. Donc le bonhomme, il est plus dans la nature. Ça, c'est la deuxième façon. Mais c'est pas celle plus fort. Le plus fort, c'est le troisième. C'est quoi le troisième? C'est celui qui arrive à vivre une vie miraculeuse dans la nature. Ça veut dire que c'est un qui va être comme nous tous, qui va travailler tous les jours, qui va aller au boulot, d'accord, etc. Qui va faire tout, qui est son travail, qui va être dans la nature. Et dans la nature, c'est pas qu'il va quitter la nature, qu'il va s'enfermer dans une yeshiva. Dans la nature, il va faire des petits miracles. C'est quoi un petit miracle? C'est qu'il va se dépasser. Ça, c'est très difficile. Parce que vivre naturellement, c'est facile. Tu dis, je me dépasse pas, ce que je peux donner, je peux pas donner, je peux pas donner, je peux donner, désolé, le banquier ne l'a pas autorisé. Adkat. S'arrête là. D'accord? Après, t'as le miraculeux, il dit, écoute, tant que ça marche, tu tires, y a pas de problème. D'accord? Et moi, je connais personne, moi, y a pas de calcul. Tant qu'on peut écrire des chèques, on met 10 millions, y a pas de problème. Bon, c'est le miracle. Ça passe. D'accord? Mais, à la limite, c'est facile d'être comme ça. De pas calculer du tout. Le plus difficile, et c'est ce qu'on essaye de faire chacun de nous, c'est dans la vie de tous les jours, d'être en même temps calculé. Ça veut dire que tu sais que t'as des règles. Tu vis dans un monde dans lequel il y a des règles. Il y a des heures où on se couche, des heures où on se lève, il y a un travail, il y a une chose qu'on a gagnée, une chose qu'on n'a pas gagnée, une chose qui nous appartient, une chose qui nous appartient pas, une chose que je peux faire, une chose que je peux pas faire. Je vis dans un monde, et je suis conscient que je vis dans un monde structuré. Et en même temps, je me retrouve à faire des choses qui me dépassent. C'est extrêmement difficile, ça, parce que t'es en conflit constant dans ta tête. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé plusieurs fois, ça. T'es en conflit constant dans ta tête, parce que tu dis, mais est-ce que je fais le foufou ou est-ce que je suis sérieux? Alors, t'as des gens qui, dès le départ, ils sont foufou, donc c'est tant mieux, ils sont fous, c'est ma boule, d'accord? T'as des gens, dès le départ, ils disent, moi, je fais jamais le fou. Mais toi, t'es un peu entre les deux. Là, tu te retrouves à faire des folies, quand je dis des bonnes folies, ça veut dire te dépasser, faire des mitzvot qui te dépassent, etc. Et d'un autre côté, tu dis, non, mais moi, je suis quelqu'un de structuré, je suis quelqu'un de cadré, je suis quelqu'un de cartésien, etc. Et en même temps, tu te retrouves à te dépasser complètement. Ça, c'est extrêmement difficile. Mais on se rend pas compte, mais c'est un challenge qui nous accompagne tous les jours. Et je vais vous dire plus que ça. En fait, c'est très simple. Prenez par exemple comment on démarre notre journée. Je démarre ma journée le matin, hein, avec le Shema Israël. J'accepte le jour d'Akadosh Baruch Hu. Bon, voilà, c'est facile d'être religieux quand tu te lèves le matin, y a pas de problème. T'es religieux, bien sûr, t'es religieux, pas de problème. Après, tu fais l'Amida. T'es en mode miracle, là. T'es décollé. T'es l'Amida, t'es décollé. C'est facile d'être religieux pendant l'Amida. C'est normal, t'es religieux. Quel est le problème ici? Après l'Amida, tu rentres au monde des affaires. Et là, on te dit, dans le monde des affaires, tu vas être religieux. Et même si le Shabbat est le jour où tu gagnes le plus, tu vas quand même pas travailler. Je dis, ah, je sais pas. Tu dis, à la synagogue, je suis religieux. À Rome, je suis, à Jérusalem, je suis comme à Jérusalem. Pas de problème. D'accord? À Jérusalem, je suis comme un bon juif. Mais quand je suis dans les affaires, business is business. Qu'est-ce que je raconte des histoires? Ça veut dire que quand on rentre dans le monde des affaires, quand un juif il rentre dans le monde des affaires, il est quelque, tout constamment, en train de consommer sans se consumer, en train d'un côté de faire les choses naturellement, d'appeler des clients, de débattre, etc. Donc de faire les choses naturellement, et en même temps en étant convaincu profondément que finalement celui qui envoie l'argent ça gêne. Et constamment il est tiraillé, tu vois. Des fois il a des petites opportunités, il se dit maintenant il suffit juste de changer une petite virgule là dans ce contrat ou un petit truc, etc. Et je peux gagner gros. Je dis juste un mot, j'appelle, je dis juste un mot, je suis votre président, je peux faire des milliards. C'est tout, un mot. Et là, le juge religieux rappelle, dit non, c'est assourd. Oui, mais c'est assourd, mais tu comprends, mais comment on va faire? J'ai besoin. Ça veut dire que constamment, il est tiraillé. D'un côté, la nature, et d'un autre côté, il est au-delà de la nature. Et je vais aller plus loin que ça. Je vous explique, Dans l'histoire du peuple juif, on a connu trois périodes. Ce que je vous dis, c'est ce qui est dans le tableau que vous avez ici, que vous pourrez relire chez vous. On a connu trois périodes. On a connu une période dans laquelle le peuple juif était en mode naturel. Bah, il était dans le désert, il servait Dieu, pas de problème. Comment, il y a pas de problème. Après, on a connu des périodes aussi où on était en mode miracle. Que des miracles. C'est-à-dire la manne qui tombe du ciel, et ensuite la parnassa qui tombe, il y a pas de problème. Que des miracles. Mais dans les deux périodes, c'est facile à servir Dieu. Tant que t'as pas de problème, que tu sers Dieu naturellement, ou que tu sers Dieu avec les miracles, et qu'il y a des miracles, c'est facile. Mais le vrai challenge, et notre challenge, lorsqu'on est en exil, les miracles, tu les vois pas. Les miracles, tu vis dans un exil, tu vois devant toi l'obscurité. Et quand tu fais un effort pour créer un miracle dans ta vie, et un miracle dans ta vie, le vrai miracle, c'est quoi? C'est pas, ne croyez pas qu'il y a un tzaddik qui va faire le miracle. Le vrai miracle, c'est nous. C'est nous qui faisons le miracle. Quand tu fais un miracle, que tu vas te forcer à te lever le matin pour aller à Shacharit, pour aller mettre une tefilin, pour aller faire une mitzvah, pour rester honnête dans tes affaires, pour ne pas t'énerver, etc. Ça, c'est des petits miracles que tu fais dans ta vie. Mais un miracle comme ça, ça vaut de l'or. Parce que c'est pas un miracle qui arrive à la synagogue. C'est un miracle qui arrive dans la nature. Et en même temps, tu restes naturel, tu restes celui que tu es. Et en même temps, tu arrives à faire des miracles dans ta personne. C'est extrêmement difficile. C'est notre challenge de tous les jours. Et ben ça, c'est le message de Hanouka. Le message de Hanouka, c'est que le vrai miracle n'est pas celui que tu fais quand tout va bien. Le vrai miracle n'est pas celui que tu fais quand tout est miraculeux. Le vrai miracle est celui que tu fais quand ça va mal et ça va bien en même temps. C'est-à-dire, c'est plus, à la limite, il y a des situations, on te dit comment tu vas? Qu'est-ce que vous répondez? Comment tu vas? Baruch Hashem, béni soit Hashem. Et tu sais même plus, je te dis, mais comment tu vas? Mais tu sais, finalement, je sais même plus si je vais bien ou je vais mal. Je sais même plus. Hein? Bien sûr, c'est un miracle. Ça veut dire que tu évolues dans un monde dans lequel tu comprends qu'il y a un problème et qu'il y a des problèmes. Et en même temps, tu arrives à te mettre dans un mode miracle de comprendre, de dépasser ça. Dépasser sans dépasser. L'autre s'est dit qu'il est dépassé, c'est facile pour lui. T'as un autre, il dépasse pas. Il dit, moi, je suis bloqué, je suis déprimé, tu me laisses tranquille. Hein. Tu vois, alors, je suis dans le métro, d'accord? Il y a quelqu'un qui est passé, il a ramassé de l'argent. Il dit, mais arrêtez de, il a dit comme ça. Il a dit aux gens, il dit, mais arrêtez de faire la tête, c'est moi qui est dans la zut. Il a dit un autre mot. Pas vous. D'accord? Ben oui. Ça veut dire que, t'as deux modes. T'as celui qui est naturel. Naturellement, il dit, moi, je me dépasse pas, je suis bien, comme ça, tu touches pas. Ben, mais Genève, d'accord? T'as l'autre, celui qui est miraculeux, y a pas de problème pour moi, tout va bien. D'accord? Mais le plus difficile, c'est quand t'es en même temps, les deux en même temps. D'un côté, tu évolues dans un monde et tu es conscient. T'es pas ignorant, tu es conscient de ce qui se passe. Et d'un autre côté, t'as des micro-victoires sur ton Yitzhara, comme ça. Tac, tac, tac. Des petits coups comme ça, dans lesquels t'arrives à te dépasser. C'est extrêmement difficile. Il faut savoir que chaque fois qu'on réussit à avoir une micro-victoire comme ça, c'est un mini-miracle de Hanouka qui est en train de se passer. C'est l'huile qui se consume sans se consumer. C'est l'impossible qui devient possible. C'est ça le chidouche. Je suis dans la nature et dans la nature, j'amène le surnaturel. Tout en restant dans la nature. Je suis pas à la synagogue, je suis pas chez un tzaddik, je suis dans la nature. Je suis chez moi à la maison, je suis dans ma vie, je suis au boulot, je suis dans mon bureau, je suis devant les problèmes. Et dans les problèmes, j'arrive à me dépasser un petit peu. Ça, c'est énorme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, on va terminer avec ça, après les questions avec plaisir. C'est que pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ce miracle? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ce miracle à Hanouka? D'accord. Parce qu'en fait, je termine. Ben, comme, c'est ça, c'est un travail constant. Chacun de nous, il rentre dans la vie. Il n'y a pas une personne, je suis sûr qu'il n'y a pas une personne autour de la table qui n'a pas été confrontée à cette situation. Des situations dans lesquelles tu sens que tu as réussi à te dépasser un petit peu. Et tu sens que ça t'a coûté des efforts monstrueux et tu n'arrives pas. Parce que c'était dur. Il y a une réalité qui était devant toi, que tu ne pouvais pas ignorer. Et tu as réussi à te dépasser un petit peu. Même 5 minutes. Il y avait un truc qui t'énervait grave. Tu t'es pas énervé. 5 minutes. Tu viens de créer un miracle. Tu viens de créer le miracle dans le naturel. Parce que la chose, elle t'énerve. C'est pas que t'es parti voir un tzaddik qui dit, bon, écoute, y a plus rien, ça t'énerve plus. Le problème n'est pas réglé, le problème est toujours là. Il est devant tes yeux, il t'accompagnera jusqu'à la tombe. D'accord ? C'est ça la force. Mais je ne dis pas ça pour maudire, Hasbe Shalom. Pour savoir que la grande force, c'est quand tu arrives dans un problème, dans l'obscurité, dans l'exil, à réussir à trouver en toi des miracles. Trouver en toi une force pour trouver la lumière. Je disais, je terminais avec la référence numéro 16 que j'expliquais à l'oral. Il dit pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait ce miracle à Hanouka ? Un miracle tellement fort qu'il n'a jamais fait. Même la traversée de la mer Rouge, il n'a pas eu ça. Même les 10 plaies, il n'y a pas eu ça. Il n'y a jamais eu des miracles comme ça. Il n'y a jamais eu des miracles comme ça, des miracles impossibles. C'est toujours des miracles qui duraient une seconde. Tac, tac, l'eau, sang, tac, 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 tac. Il était mort, il était vivant, il est mort. Bon, ok, tac, tac, c'est fini. Mais il n'y a pas de miracle comme ça constant. Un miracle qui dure 24 heures, 48 heures, 50, ça n'existe pas, il n'y a pas ça. Il n'y avait que dans le temps qu'il y avait ça. Il n'y a jamais eu des miracles comme ça. Pourquoi Dieu leur a fait un miracle comme ça à Hanouka? Dieu leur a fait un miracle comme ça à Hanouka. Parce que eux aussi, à Hanouka, les Hashmonaïm, ils sont partis dans une démarche complètement hors du commun. Ils sont partis dans une Messirut Nefesh, dans une abnégation qui était illogique. Ils n'avaient aucune chance de gagner. Aucune chance. Ce n'était pas des guerriers. Ce n'était pas des soldats. Ils étaient en nombre limité. Surtout comme on a expliqué ce matin, ils étaient minoritaires. D'accord? Et en plus de ça, la majorité du peuple juif était hellénisé. C'est-à-dire que la majorité du peuple juif n'était même plus du camp des Hashmonaïm. C'est la réalité, ce que je vous dis. C'est la réalité. La majorité du peuple juif, ils disaient, mais qu'est-ce que vous voulez aux Grecs? C'est bien la culture grecque. Laissez-les tranquilles. Et les Hashmonaïm, du coup, tu te dis, mais je me bats contre qui maintenant? Je me bats contre une culture? Je me bats pour qui? J'ai qu'à me sauver. Je me cache dans une grotte. J'oublie tout le monde. Les Hashmonaïm, ceux-là, ils se battent pour l'impossible, contre l'impossible. Et pourtant, les Hashmonaïm, c'était tous sauf des imbéciles. C'était tous sauf des inconscients. Parce que c'est vrai, on peut s'imaginer, ouais, c'est des inconscients foufous, comme ça, ils sont partis. Pas du tout. Les Hashmonaïm, on dit, c'est des familles de Kohanim Gdolim. C'est-à-dire, c'est des gens très grande envergure, des grands Kohanim, des gens qui, vous savez, pour être Kohen Gadol, qu'il fallait comme entraînement, etc. C'est des grosses pontes. Comment quelqu'un a une grosse ponte, il peut se retrouver à faire quelque chose comme ça qui est incompréhensible? Ils ont réussi à créer un miracle dans leur vie. Le miracle dans leur vie, c'est que tout en étant dans la nature, tout en étant des gens du monde, des gens qui savent exactement ce qui se passe, ils ont réussi à se dépasser et à dire, créons le miracle dans notre vie. Lorsque Kadosh Baruch Hu il a vu ça, il a dit, eux, ils ont fait un miracle dans la nature, c'est-à-dire tout en étant dans la nature, ils font un miracle. Ils sont partis en guerre tout en étant confiants. C'est pas, ils ont dit, bon, écoute, on est là, vas-y, HM, allez, je prends les cacahuètes, j'attends le miracle. Non, ils sont partis en guerre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les Hashmonaïm, c'est exactement la même chose. Ils sont partis en guerre, mais tout en étant sûr que c'est Dieu qui fait la guerre. Mais ils sont partis en guerre. Alors qui fait la guerre? C'est toi ou c'est Dieu? Si c'est Dieu, laisse le faire. Si c'est toi, alors prends les armes qu'il faut. Comment ça fonctionne? Il est parti en guerre sans partir en guerre. Comment ça marche? C'est exactement la même chose.
Oui,
c'est
que sans faire la guerre.
Non, il a fait la guerre. Il a fait la guerre tout en ayant confiance que c'est Hachem qui fait la guerre. Tout en faisant la guerre. Il fait la guerre en ayant confiance que c'est moi qui fais la guerre. Tout en ayant confiance que c'est Dieu qui fait la guerre. Comment c'est possible? C'est une émouna extraordinaire, ça. C'est extrêmement difficile. Et on est tous confrontés à ça tous les jours. D'un côté, se dire que c'est Dieu qui envoie la Parnassa, c'est Dieu qui envoie tout. Et d'un autre côté, se dire, mais attends, c'est moi qui dois bosser. Mais les Hashmonaïm ont poussé ça à son paroxysme. Ça veut dire qu'ils sont partis, ils ont pas dit, comme un tzadik, bon, on est là, on attend, Dieu envoie un miracle, pas de problème, Hachem, on t'attend, quand tu veux, on est prêt. Non, ils sont partis se battre. Tout en étant confiants que c'est Akadosh Baruch Hu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui règle le problème. Donc ça veut dire qu'ils sont partis chercher quelque chose qui est complètement illogique. Ils se battent sans se battre. Ils se battent en pensant que c'est eux qui vont amener la victoire, tout en étant convaincus que c'est eux qui amènent la victoire. Et les deux en même temps. Donc c'est très difficile de vivre ces deux choses-là en même temps. Les Hashmonaïm l'ont fait. Alors Akadosh Baruch Hu dit, plus qu'eux ils l'ont fait, moi aussi je dois leur envoyer un miracle dans le même mode. Ils ont marié la nature et le surnaturel. Ils ont marié la nature et le miracle. Ils ont marié les deux en même temps. Moi aussi je suis obligé de leur envoyer un miracle comme ça. Un miracle dans lequel on marie le possible et l'impossible. C'est pour ça que Hanouka, il leur a envoyé un miracle qu'il n'a jamais envoyé. Un miracle qu'il n'a jamais envoyé. Et d'ailleurs, reprenons, je termine avec ça. Dans le miracle qu'il y avait pour Sarah et pour Rivka, vous vous rappelez au début du cours, a priori c'est un miracle quantitatif. Bon, il y avait une mesure d'huile, elle a brûlé plus, c'est tout, c'est pas un problème. Mais il n'y avait pas cette notion que ça brûlait sans brûler. Il n'y a pas, c'est un miracle, Nigmar. C'est un miracle. Ça veut dire qu'il y avait un truc, c'est un miracle, c'est fini. Ça brûle, on t'a rajouté des litres d'huile. Mais c'est un miracle. Mais c'est simple d'avoir un miracle. C'est beaucoup plus compliqué de servir Dieu dans la nature et dans la nature créer le miracle, tout en restant dans la nature. C'est extrêmement compliqué. En exil, on vit ça. Et c'est pour ça qu'en exil, je termine avec ça, on a beaucoup plus de mérite qu'un bon juif qui vivait à l'époque du temple. Parce qu'un bon juif qui vivait à l'époque du temple, c'est facile pour lui de servir Dieu. Dès qu'il a eu son etzara, qu'il embêtait un petit peu, qu'il dit, bon, viens, on va faire un petit avéra. Vous savez ce qu'il faisait? Il allait au Beth Amikdash. Dès que tu vois Beth Amikdash, tu vois devant tes yeux des miracles. Devant tes yeux, tu vois le vent qui souffle, une tornade à 150 km/h, et tu vois la fumée qui monte droit devant Hachem. Pac! Devant tes yeux. Tu dis, waouh! c'est pas possible, tu vois ça, tu dis bon, c'est bon, c'est bon. Juste, tu vois, juste de loin, tu vois, de Jérusalem, tu rentres même pas au temple, de loin, tu vois le monde du temple. Tu vois la tornade et tu vois la fumée qui monte droit. Tu dis c'est bon, j'ai compris, Hachem il est là. C'était facile de servir Dieu. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on vient dans un monde dans lequel il n'y a pas de fumée ici. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas de miracle. Et donc, vivre dans un monde comme nous, dans lequel il n'y a pas de miracle. Donc, on vit dans la nature. Et on est conscient de ce qui se passe. On ne vit pas dans un cocon. On est conscient de ce qui se passe. Et en même temps, on crée des micro-miracles dans notre vie. C'est extraordinaire. On est en train tous les jours de recréer des mini-miracles de Hanouka dans notre vie. C'est pour ça que Hanouka est une fête qui nous parle beaucoup. Hanouka est une fête qui nous parle particulièrement en exil. Hanouka, c'est une fête de l'exil. C'est parce que c'est exactement ça le miracle de l'exil. C'est que tout en étant dans la nature, tu apprends à faire des miracles. Donc espérons qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, nous envoie le plus grand miracle qu'on puisse attendre. Amen. C'est quoi le plus grand miracle qu'on puisse attendre? C'est la venue de Mashiach. Avec ça, Be'ezrat Hashem, quand on va diffuser la chassidoute, et quand on va diffuser la chassidoute, on méritera que Mashiach vienne très rapidement. On aura comme ça des miracles impossibles, parce que rien n'est impossible pour Dieu. L'impossible est possible. Voilà. Il y avait des questions, pardon, tu voulais, ouais. Désolé, on a dépassé un petit peu, mais c'est la pizza. Moi, j'avais besoin de parler pendant 1h15.
Non, mais là, il est parti à 1 million de kilomètres. Bon, mais je vais revenir.
Ah,
bon. Non, reviens pas, reste. On peut garder.
Bien sûr, c'est pour vous.
À un moment donné, où tu parles de l'événement comme ça, que tu se produis, qui est entre... Et je veux dire que...
Vous pouvez le garder.
Si, un exemple, regarde, si je prends la bouteille, là.
Oui.
Je la prends.
Oui.
Entre le moment où je l'ai prise et le moment où mon cerveau réalise que je l'ai prise, c'est déjà dans le passé, déjà. Ça veut dire que ça, c'est l'événement était déjà passé.
Oui, je comprends. Non, je comprends très bien.
Mais à un moment donné, tu as parlé de ça. Mais t'es parti tout de suite. C'est important parce que c'est intéressant de savoir que au moment où l'événement se passe, Dans le pour le peuple.
Oui, mais
juif,
Joseph.
Eh bien, c'est déjà, dans le passé déjà.
Je comprends.
Il est déjà.
Joseph, mais.
Il faut aller de l'avant.
Concrètement, vous êtes d'accord avec moi que le cerveau humain est incapable de comprendre comment c'est possible d'avoir un présent, un passé et un futur en même temps.
Oh, mais, oui, c'est pas possible. C'est ça, mais c'est ça justement. C'est justement, c'est ça l'explication. C'est que tu es dans le présent quand tu viens à la